Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 19 mai 2014 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex et Michel qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Canu Info donc avec une partie internationale bien sûr. Aujourd'hui on a l'embarras du choix pour les sujets. Puisque beaucoup sont dans la zone orientale. Peut-être finir par dire un mot sur cette affaire de la Turquie, qui est tout à fait déplorable quand même, puisqu'on déplore en définitive 301 morts. Erdogan a fait des déclarations pour dire que finalement, quand il y avait des activités minières, c'était tout à fait normal qu'il y ait des accidents de temps en temps. Pendant ce temps-là, la population ne le voit pas du tout de ce point de vue-là et continue de manifester dans la rue et avec des affrontements avec la police. Bon, on a interpellé trois lampistes, enfin, pas tout à fait des lampistes, c'est les responsables de la mine, mais quand on sait que les actionnaires de la mine sont les proches du parti de Erdogan, on comprend mieux qu'il n'y ait pas trop envie de se mouiller, de s'impliquer dans les responsabilités à cet accident qui n'aurait jamais dû arriver dans les conditions où il est arrivé. Il est évident que c'est des défauts de maintenance, de consignes, de mesures de sécurité qui est à l'origine. Les manifestants ne s'y trompent pas et bien sûr embrayent un peu sur une contestation. Elle était déjà engagée par ailleurs, hein, politique du régime face à ce drame pour la population turque. Voilà, Robert, tu voulais en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est la réaction des étudiants, et notamment les étudiants qui sont un peu, je pense, dans une école qui est un peu l'équivalent de l'école des mines en France, c'est-à-dire une école où on forme beaucoup d'ingénieurs dont certains sont ensuite destinés à ce genre d'activité. Et il se trouve qu'au conseil d'administration de cette école des mines, il y a justement deux représentants de cette société de houillères responsable de cette explosion qui fait donc, tu l'as expliqué, 300 morts. Et donc ils occupent l'école et ils ont demandé, et ça a été acquis déjà, ils ont demandé l'expulsion, même l'arrestation, mais l'expulsion pour le moins, et ils refusent d'aller au cours d'un des profs qui lui n'est pas un des gestionnaires de la mine, mais qui a tenu le même propos que Erdogan, à savoir, mais ça, vous savez, des accidents, ça arrive tout le temps. Voilà. Et donc, ils ont demandé que ce personnage cesse de faire ses cours. Mais il y a également d'autres lieux de l'éducation, surtout de l'enseignement supérieur, qui sont en cours d'occupation. Et puis, d'ailleurs, ça rejoint l'ensemble du débat qui est menée pour contester les orientations productivistes du style enrichissez-vous à n'importe quel prix, au prix de la mort.
Voilà pour ce sujet, à moins que Michel veuille intervenir. On a pas mal de sujets ce soir à traiter si on arrive au bout. Nigeria, Mali, Libye, Turquie, on vient de le faire, la Colombie éventuellement. L'Ukraine aussi, la Suisse, tiens donc. Sur quoi on embraye ? Moi, je redirais bien quelques mots de l'Ukraine, parce que quand on analyse l'attitude des médias, on s'aperçoit que là, ça y est, ils ont épuisé le sujet, ça a fatigué tout le monde, ça ne les intéresse plus. Je parle des grands médias, ils n'en parlent même plus, ni dans les flashs, ni dans les journaux complets, alors qu'on est quand même à une semaine des élections, et que ça devrait attirer l'attention, et justement essayer de voir comment les choses se passent. Eh ben, plus rien, quoi. Comment on explique ça ?
On explique ça par le fait que couvrir aujourd'hui l'Ukraine, c'est inévitablement parler des élections qui vont avoir lieu le 25, donc dimanche prochain, les élections que les chancelleries occidentales veulent qu'elles se tiennent coûte que coûte, hein, donc qu'elles patronnent de fait, sachant le contexte, et dans le même temps en parler, c'est mettre en avant donc les manquements graves donc à l'organisation de ces élections. On sait effectivement qu'ils ne se tiendront pas sur tout le territoire.
Ouais. A priori, il y a 2 millions d'électeurs qui n'auront pas voté, enfin qui pourront pas voter.
Il n'y aura même plus de 2 millions, nettement plus que 2 millions. Mais ils n'auront pas lieu sur tout le territoire, on ne peut pas en garantir la sécurité non plus. Et surtout, la campagne est bien terne, c'est-à-dire celui qui semblerait, selon les différents instituts, arrivé en tête, c'est Porochenko, bon, c'est un oligarque, un de plus. Hein. Donc un oligarque, ça servait à quelque chose hein, de manifester depuis 3-4 mois, depuis novembre dernier, pour en mettre fin à ce système oligarchique. Hein, rappelons-le, donc les 20 principales fortunes ukrainiennes tiennent 80% du PNB du pays. Eh bien, c'est Porochenko donc, qui serait donné en tête et qui serait soutenu par toute une série donc, de potentats et d'oligarques, et notamment certains qui étaient encore il y a quelques mois dans le parti des régions et qui étaient des soutiens inconditionnels de Yanukovych. Donc, on voit bien que les choses ne vont pas aller en s'améliorant, le fossé s'est creusé entre l'est du pays et ce qui est sous contrôle directement de ce gouvernement de Kiev. Et ces élections ne vont absolument rien régler, ça tout le monde a un peu le pressent. Et juste maintenant aussi en parallèle, hein, Poutine aujourd'hui a annoncé le retrait donc des troupes stationnées le long de la frontière avec l'Ukraine. Officiellement, donc on va attendre un peu pour voir si vraiment il y a...
Personne n'a rien vu bouger jusqu'à
là. Personne n'a rien vu bouger. Dans le même temps, donc, il appelle Kiev donc, à retirer donc, ses troupes, à arrêter son opération, puisqu'elle se continue, hein, cette opération dite antiterroriste hein, dans l'est du pays, avec très très peu de résultats sur le terrain, concrètement. Voilà. Et donc la situation est toujours celle du blocage.
Voilà pour ce sujet, on y reviendra forcément la semaine prochaine, puisque là, il se sera passé quelque chose. Robert, tu voulais intervenir là-dessus, non ? Pas spécialement ?
Non. C'est simplement une réflexion pour dire que les médias, finalement, ils n'avaient pratiquement qu'un objectif, c'était taper sur Poutine. Or, Poutine... ne part pas du tout en guerre contre les Occidentaux, donc la presse est bien embarrassée, n'ayant plus la capacité de faire peur à l'ensemble de la planète avec ce diable de Poutine.
Voilà, allons un petit peu vers l'Afrique quand même, où le Nigeria, il se passe des choses qui sont intéressantes du point de vue géopolitique. Hein, donc cette action, une de plus de Boko Haram, qui est ce groupe islamiste radical, qui en a déjà fait quelques-unes. On a eu au fil des mois des répercussions en France, puisque c'était des Français concernés. Donc enlèvement de 200 jeunes filles, 200 gamines. Bon, ça a mis un mois pour réagir, mais c'est bien parti en Occident maintenant, au point que, et là on retrouve peut-être la France-Afrique, autant au point que Hollande estime que c'est à lui, français, d'organiser à Paris une gesticulation diplomatique, un mini-sommet, ça s'appelle, avec les Américains, les Anglais et les pays voisins, le Niger, le Bénin, le Tchad, le Cameroun et bien entendu le Nigeria. Il paraît que ces pays, le Niger et le Cameroun, le Nigeria ne se parlaient plus, donc c'est une très bonne occasion. Vœux pieux, mise en place de d'actions militaires sur la frontière et tout, mais pas grand-chose de concret qui pourrait en sortir, si ce n'est cette affirmation, une fois de plus, du rôle de la France qui... En plus, le Nigeria est un pays qui n'est pas sous influence. La langue parlée n'est pas le français, c'est l'anglais là-bas. Certains pourront se demander qu'est-ce que Hollande vient faire là-dedans. C'est quand même pas les manifestations de Madame Trudeau qui l'a poussé à aller jusque-là. Alors, manifestations, il y en avait aux États-Unis, en France, Trocadéro hier après-midi, avec beaucoup de personnalités en vue qui n'oublient pas, évidemment, de convoquer les journalistes pour faire des photos. Tout ça ne veut pas dire qu'on méprise le sort de ces 200 malheureuses jeunes filles, mais on a quand même l'impression d'une instrumentalisation de leur situation dans des affaires géopolitiques qui les dépassent largement.
Complètement, hein, je veux dire. Est-ce que c'est une fois de plus sous les conseils du conseiller en communication qui, notre président, c'est un cru bon d'intervenir sur ce sujet-là, qui, comme tu le disais, hein, c'est pas la sphère d'influence directement française, mais pourquoi pas, hein. Mais bon, sachant les précédents, sachant qu'on a eu des positions très claires, très dures sur le dossier syrien, à savoir, on ne discute plus avec Bachar al-Assad, on favorise logistiquement et militairement son opposition. Pour en arriver à quoi aujourd'hui? Pour en arriver à déplorer que des centaines de Français partent combattre dans les milices islamistes le gouvernement donc de Bachar al-Assad, et la crainte aujourd'hui qu'ils aient à revenir dans l'Hexagone. Voilà, donc on a précipité donc le chaos, on y a participé, notre diplomatie y a participé. Regardez pour le Mali, hein, on va en parler certainement tout à l'heure, pour la République centrafricaine. Sur la Libye, n'en parlons pas, où en est la Libye, c'est-à-dire partout, donc on a eu des positions moralistes, hein, si j'ose dire, sans aucune profondeur stratégique, hein, et on continue comme ça à croire effectivement que la politique, et notamment la politique étrangère, doit être faite sous le sceau de la morale, hein, si je puis dire, et c'est une politique qui ne compte qu'au jour le jour, hein. Il n'y a vraiment aucune espèce de réflexion sur le long terme, sur les décisions qu'on s'apprête à prendre.
Ouais. Alors, au fil des événements, on observe des choses curieuses quand même. Si on revient sur ce qui s'est passé au Mali, donc nord du Mali, Kidal, la ville évacuée sous la pression des militaires par les islamistes radicaux, le MLNA, les Touaregs, reviennent et occupent cette ville. Le Premier ministre, peut-être parce qu'il estime qu'il est de son bon droit en tant que Premier ministre d'aller dans toutes les régions du pays, décide de se rendre à Kidal, et là ça engendre des affrontements, un refus du MLNA, on a quand même une quarantaine de morts paraît-il dans cette affaire, et en plus ils ont pris les fonctionnaires d'État dans la ville en otage, il y a 30 fonctionnaires. Pendant ce temps-là, que font la MINUSMA et la Serval, les Français? Ben, ils font rien, ils interviennent pas, ils laissent se régler une affaire entre Maliens. Et du coup, le président malien, lui aussi, hurle en disant qu'ils font preuve de laxisme, ils sont pas là pour rien, enfin, nous voulons empêtrer dans une drôle d'histoire dans lesquels on a mis les mains, et pour le moment qu'on veut plus la mener complètement militairement, et on est obligé d'être quand même impliqué avec des reproches qui sont faits à ces militaires impuissants. Quoi. Voilà, c'est un peu, c'est pas simple.
C'est pas simple, mais il fallait s'y attendre. Hein. On est présent depuis janvier 2013, hein, l'opération Serval. Elle devait au départ débarrasser le Mali des islamistes. Alors, le MLNA, officiellement, hein, ce ne sont pas des islamistes. Hein, ils sont musulmans, soit, mais ce n'est pas la version islamiste salafiste. Hein, c'est la partie avec laquelle Bamako, donc le gouvernement central, donc du Mali doit discuter, donc est censé donc discuter depuis maintenant plus de 6 mois, et donc là on voit bien qu'on en est au point mort. Alors Qu'attend le gouvernement central, qu'attend Bamako de la France? La France se retrouve dans une position un peu... elle a aidé donc le gouvernement central à reprendre donc le contrôle de tout son territoire, donc toute la partie nord du pays. Mais dans le même temps, le problème reste entier, à savoir que la population du nord, principalement peuplée donc de populations de souche touareg, réclame au mieux pour Bamako l'autonomie, au pire l'indépendance. Et donc tout le souci, comment les touareg interprètent l'arrivée donc du premier ministre fraîchement élu Moussa Mara donc à Kidal dans le nord du pays, donc comme un affront. Ils ont manifesté la veille de son arrivée, donc la manifestation n'a pas suffi. Donc je pense que jusqu'à quel point il y a pas eu une forme de provocation de la part donc de Bamako, de la part de Moussa Mara dans cet exercice. Et il est clair que jusqu'où la France a-t-elle mission donc de soutenir donc le gouvernement de Bamako. On voit bien effectivement là aussi les difficultés de l'exercice. Juste à rappeler que c'est une mission qui devait durer quelques mois, hein. Et voilà, maintenant on y est déjà depuis 15 mois et on n'est pas prêt d'en sortir.
Robert, tu voulais intervenir là-dessus ou sur un autre sujet?
En passant, effectivement, Michel a souligné la Libye, parce qu'effectivement, la Libye, on voit ce qui s'y passe aujourd'hui, et l'est de la Libye est autour de Benghazi est sur le point de rompre, un peu à la manière de l'Ukraine, mais dans d'autres conditions, oui, enfin, naturellement. On parle même d'un coup d'État qui aurait échoué. Enfin, ça fait plusieurs... Il y a des dizaines et des dizaines de morts et de blessés. On ne sait même pas qui veut s'emparer du pouvoir, quel est le courant religieux islamiste radical qui veut s'installer à la tête du pouvoir. Est-ce que c'est simplement le désir de pouvoir s'assurer des bénéfices du pétrole de ce secteur-là? Mais et la dispersion, on peut dire, de la Libye, bien aujourd'hui continue de produire les effets avec ces gens qui avec des étiquettes islamistes, souvent peut-être usurpées, en fait descendent. On franchit donc ce qui était un peu le sorte de cordon qu'Alger et Tripoli, du temps de Kadhafi, avaient fait barrage à cet islam violent pour tenter de le contenir. En fait, il n'y a plus personne pour le retenir et il descend vers le sud. Il fait la jonction avec d'autres courants plus au sud, donc de l'Afrique du Nord, et ça produit ce qui se passe un peu partout dans cette Afrique subsahélienne.
Ouais. Sur la Libye, on peut dire qu'elle est au bord de la guerre civile, hein, actuellement. On va voir comment tournent les choses, mais si les affrontements continuent, la manière dont il semble qu'ils soient en train de se dérouler, ça peut prendre de l'ampleur.
Oui, bien sûr que ça peut prendre de l'ampleur. Les événements de Tripoli, hein, donc le coup de force contre le Parlement, quoi. C'est aussi la volonté d'une partie des protagonistes sur l'échiquier libyen de contester donc les dernières élections, hein, qui avaient vu de fait les islamistes, hein, nommer leur premier ministre. De fait, les choses sont pas claires dans cette affaire-là, sous-entendu que ceux qui aujourd'hui contestent un peu, c'est assez simple, hein, de parler d'islamisme, parce qu'on c'est un fourre-tout, hein. On met dedans les salafistes, comme on peut mettre effectivement des gens qu'on pourrait qualifier de, je sais pas moi, de chrétiens démocrates, hein, chez nous, c'est-à-dire de gens qui prônent l'islam et qui ont une vision assez ouverte sur les institutions, enfin sur la vie politique. Donc Aujourd'hui, il y a aussi l'alibi profondément divisé de manière clanique, mais divisé aussi dans le sens où plus personne ne fait confiance aux différents protagonistes. Hein, dans le sud du pays, il est totalement détaché, la région de Fezzan de Tripoli. Benghazi, n'en parlons pas. Donc, on a vu dernièrement des cargaisons donc, de pétrole être livrées sans l'accord du gouvernement central de Tripoli, qui ne contrôle de fait plus rien. Et on voit aussi donc, dans cette mélasse un peu les chancelleries occidentales qui ont aidé les Libyens à se débarrasser de Kadhafi, mais qui aujourd'hui sont bien en peine de s'appuyer sur un mouvement conglomérer donc ces différents mouvements et notamment donc ce qui s'est passé sur l'attaque dimanche du Parlement en Libye. On soupçonne fortement effectivement les Américains aussi d'avoir été derrière, car le Premier ministre qui est pourtant un homme d'affaires mais qui est donné comme islamiste ne convenait pas de toute évidence aux États-Unis. Donc là aussi il faudrait un peu suivre cette affaire et on a vu aussi l'implication de l'Égypte, hein. Le général Al-Sisi qui s'apprête donc à prendre le pouvoir officiellement, hein, en Égypte, à ses hommes sur place en Libye et logistiquement il aide certaines milices. Donc on voit bien on a évoqué, hein, la Libye est profondément divisée, mais elle est aussi sous influence aujourd'hui des chancelleries occidentales, qui est du grand voisin égyptien, qui, n'oublions pas, historiquement, avait toujours des vues, hein, sur une partie de ce pays.
Voilà, on ne contribue pas forcément à simplifier la vision des choses pour nos auditeurs, mais on l'éclaire. Autre sujet, on évoque un peu cette crise entre la Chine et le Vietnam, surprenante, oui et non, d'un litige sur une question de zone en mer à attribuer au Vietnam et que la Chine revendique en y installant carrément une plateforme pétrolière. Du coup, ça énerve beaucoup les Vietnamiens autour d'Hanoï qui font des manifestations avec des émeutes, des morts, des blessés et des Chinois qui fuient par milliers la zone avec une Chine qui se montre très en colère. Alors, numériquement, on sait que les Vietnamiens ne feront pas le poids, mais enfin, on n'est pas encore au bord de la guerre. On est même dans les négociations, puisqu'aujourd'hui, à Shanghai, il y avait cette réunion, le quatrième sommet de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie. 40 pays représentés, dont la Russie de Poutine. Alors peut-être ce sujet fera partie des sujets abordés dans ce sommet.
C'est-à-dire que le Vietnam a une position qui est importante parce que le Vietnam ne se sent pas du tout pro-chinois et le Vietnam, à un moment donné, même encore récemment, pense, ou du moins les Américains pensent que avec le Vietnam et le Japon, ils vont pouvoir, établir une sorte de cordon sanitaire. On a trouvé un mot aujourd'hui pour parler de ces choses-là. On dit l'endiguement, d'ailleurs. On a parlé, et les grands experts en géopolitique, ils évoquent par exemple l'endiguement de la Russie. Actuellement, on voit ce qui se passe, isolé, vraiment l'enfermé. Et il y aurait actuellement une même manœuvre en Asie, d'endiguement de la Chine. Effectivement, c'est les deux pays qui sont le plus menaçantes, non pas en termes guerriers, mais en termes d'économie, Donc endiguer la Chine, et pour ça il faut du monde, et il y a déjà le Japon. Le dispositif militaire américain au Japon est en pleine révision, et pourquoi pas, les Américains comptent aussi sur les Vietnamiens.
Oui, juste à rappeler que bon, sur cette rivalité sino-vietnamienne, ça date pas d'hier. Hein. On a déjà eu des précédents, hein, même lorsque les deux États étaient communistes bien affirmés, hein, non version libérale comme aujourd'hui. Il y a eu déjà donc une guerre, hein, brève, mais il y a eu une guerre à la frontière entre la Chine et le Vietnam. Le Vietnam s'est pendant très longtemps appuyé sur l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique a volé en éclats, la Russie affaiblie. Elle n'avait plus de partenaire stratégique digne de ce nom. Entre-temps, la Chine a grossi. Hein, c'est devenu une superpuissance, on peut le dire. Hein, et donc qui fait de l'ombre au Vietnam et aux intérêts vietnamiens. Hein. Et dans ce contexte-là, oui, les Américains ont compris qu'ils pouvaient faire du pied à leur ancien ennemi, ceux qu'ils avaient défaits, et que ceux-ci avaient maintenant l'oreille attentive donc aux intérêts géostratégiques américains. Et le partenariat, il est juste en voie de négociation, mais on parle déjà effectivement de possibilités pour la flotte américaine de pouvoir, faire
circuler dans les eaux territoriales,
dire, tout à fait vietnamienne. Donc c'est un énorme pas, hein, entre ces deux pays. Et comme tu le mettais en avant, la politique des États-Unis, c'est prévenir toute puissance qui pourrait contester donc l'ordre établi, et l'ordre établi, c'est la Pax Americana. C'est vrai pour la Russie dans le Nord, mais c'est vrai aussi pour la zone Pacifique, pour la Chine. Et on l'a vu, hein, tu évoquais le Japon, oui, mais aussi la Corée du Sud. N'oublions pas qu'il y a 40 000 Américains stationnés en Corée du Sud. Ils ont des facilités aux Philippines. Il contrôle de fait le détroit de Malacca entre la Malaisie et l'Indonésie. Et on voit bien aussi les stratèges militaires des États-Unis autour de Obama qui le pressent un peu de réorienter les forces des États-Unis vers le Pacifique en les faisant partir petit à petit d'Europe.
Voilà, faut-il dire quelques mots des inondations dans les Balkans ? Elles auront des répercussions économiques, si ce n'est politiques en tout cas, puisqu'il y a des milliards d'euros de dégâts, non ?
Oui, alors un pays qui n'avait pas besoin de ça.
Qui n'avait pas besoin de ça.
Tout à fait, une région qui n'avait pas besoin de ça. Donc la Bosnie, enfin la Serbie principalement, victime de ces inondations. Le bilan humain donc reste à définir avec exactitude. Pour l'instant, il s'élève à plus de 40 morts, mais c'est surtout donc les infrastructures qui sont pleinement touchées, les ponts, les routes, sachant que dans cette région, c'était pas vraiment le point fort, hein, les infrastructures, surtout les infrastructures routières. Donc on voit en perspective des difficultés pour ces gouvernements-là. Et dans le même temps, pour l'instant, on est dans le feu de l'action, dans l'émotion. On annonce des arrivées des eaux, puisque la rivière, la Sava, affluent enfin du Danube, continue donc à grossir. Hein. Et donc les gens sont toujours, même si dans les zones qui ont été plus inondées, comme Obrenovac, Chabac, les eaux ont baissé, mais il y a toujours donc la crainte de cette arrivée de flots, de tous ces affluents de la Sava qui descendent de Bosnie, enfin de ces régions montagneuses, et qui devraient arriver dans les heures, dans les jours qui viennent. C'est des positions, oui, qui vont coûter très cher. Et là aussi, il y a eu très peu d'écho en France, notamment. Les Allemands ont été un peu plus attentifs et ont tout de suite dépêché de l'aide. Les Russes aussi, hein, pour les raisons qu'on connaît. Mais chose étonnante, les Émirats Arabes Unis aussi ont aidé financièrement et assez rapidement le gouvernement serbe, c'est vrai, et bosnien. Mais c'est vrai qu'ils sont aussi en affaires, hein, depuis maintenant quelques années avec ces gouvernements respectifs.
Ouais. Les Russes ont marqué le premier point parce que c'est les Ilyushin qui sont arrivés les premiers avec naturellement tout ce qu'il faut pour aider les populations.
Oui, alors ils ont marqué le
mais
point.
C'est l'habitude, le rapport entre les Russes et Serbes, ça n'est pas nouveau.
Tout à fait, mais je veux dire, ils ont marqué le point, oui, pour eux, mais vis-à-vis de leur opinion publique, parce que là aussi, hein, sans images, sans caméra, il n'y a pas de point de marqué. C'est-à-dire, il faudrait qu'on en parle en France pour dire que les Russes ont marqué le point. Pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est qu'en France, apparemment, hein, la Bosnie et la Serbie ne font pas partie de l'Europe, alors une autre Europe.
Voilà, on est en Europe déjà, on parlera peut-être des élections dans la rubrique nationale, on va parler de la Grèce quand même, puisque la Grèce votait pour des élections municipales, locales, et que, à la surprise de tout le monde, ben, le parti Syriza, la gauche, leur front de gauche à eux, leur parti de gauche à eux, est arrivé en tête pas partout, en tout cas à Athènes, quoi. Et dans les autres pays, dans les autres villes, bon, c'est des bons résultats, mais c'est quand même les partis traditionnels, les candidats indépendants en particulier, qui s'en tirent le mieux avec un parti d'extrême droite qui fait quand même 8% dans le pays, et en se mobilisant pas mal, quoi.
Et l'effondrement du PASOK, des socialistes.
Les socialistes,
quoi, avoir lu. Oui.
Donc, premier tour des municipales et régionales. La semaine prochaine, deuxième tour, en même temps que les élections européennes. Donc, Mélenchon, lui, rêve déjà d'un effet domino qui, partant de la Grèce, pourrait s'étendre à tous les pays d'Europe. Quoi.
Mais effectivement, dans les sondages, les Grecs avec Alexis Tsipras arrivent en tête dans les sondages en Grèce. Hein, et très légèrement, je veux dire, autour de 22% contre 20-21% à la droite.
Voilà, on peut dire un mot aussi du Portugal qui officiellement sort ce jour de la tutelle financière de la Troïka. Est-ce que ça va changer grand-chose pour eux? Ben, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir emprunter directement sur les marchés sans passer par l'intermédiaire de la BCE ou du fonds du FMI. Ça réduira pas considérablement les emprunts, c'est une satisfaction psychologique qui... C'est une confiance que les Européens leur accordent au titre de la bonne conduite qu'ils ont eue en pressurant le citron de tous les travailleurs portugais. L'austérité en question ayant cassé la croissance et donc ayant entraîné une baisse de revenus et beaucoup de misère dans la population, chômage et autres. Il arrive que donc ces grandes institutions arrivent à leur fin de cette manière-là. Il reste à voir comment le Portugal rebondira s'il rebondit. Pour le moment, il paraît qu'il rebondit en rêvant de devenir et en essayant de devenir un paradis fiscal. Ah ben nous voulons bien avancer. Un de plus. On peut dire un mot aussi du traité transatlantique qui est en train de se négocier. On n'en dira pas grand-chose pour une bonne raison, c'est que les négociations sont secrètes. C'est à huis clos. Même Montebourg avoue qu'il ne sait rien, dit-il. C'est assez hallucinant cette affaire. Là se décident toutes les règles qui vont présider à la mise en place d'un grand marché libre et avec des règles très sournoises et qui pourraient devenir terribles, hein, du genre les règles mises en place par ce traité passeront par-dessus les lois des États. Par exemple, la France interdit le gaz de schiste, et ben les boîtes américaines pourront se plaindre et passer par-dessus cette interdiction au titre qu'il n'y a aucune raison que dans le cadre du traité qui a été signé, ils ne puissent pas exploiter les gaz de schiste comme ils le font ailleurs. C'est un exemple.
Il y aura des tribunaux spéciaux pour ça.
Ouais. Si on accepte ça, alors va-t-on l'accepter et dans quelles conditions? C'est ce qu'on veut se demander, mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'on voit les choses arriver puisque on se demande bien pourquoi. C'est dans une opacité totale que ces négociations se font entre nos commissaires européens et les Américains et autres. Voilà, oui.
Oui, juste parler un peu de ce projet, le TAF-TAF, hein, c'est un projet un peu plus global, hein, c'est, là aussi c'est une politique à un peu plus longue vue de, du monde occidental, hein, qui se sent menacé par les puissances dites émergentes. Hein. On sait que dans 20 à 30 ans, la Chine sera au même niveau de puissance que les États-Unis, si ce n'est peut-être même plus puissante, que l'Inde aussi sera une superpuissance, que le Brésil, enfin il y a d'autres pays, ces puissances émergentes donc vont peser de tout leur poids sur l'échiquier mondial, et donc on voit bien un peu que ce monde occidental a décidé donc de se créer sa zone de libre-échange pour contrebalancer l'arrivée future donc de ces puissances émergentes. Et on voit bien que dans ce marché-là, il ne faut pas croire effectivement que les décisions à plus ou moins court terme seront prises à Bruxelles, elles seront prises à Washington, elles seront prises à New York. Hein. C'est-à-dire, on l'a vu déjà avec la construction européenne, on ne peut pas adhérer à l'Union européenne si on n'adhère pas à l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi ? C'est la mainmise des Américains donc, sur le système des défenses européens. Donc il n'y a pas de défense européenne, il y a une défense dite occidentale qui est sous contrôle des États-Unis, et il en sera exactement la même chose pour l'économie et la finance. Et donc cet accord secret donc, il vise à ça, hein. Il vise effectivement à une forme de politique du fait accompli, hein. Personne n'en parle, ou très peu, ou il est très très mal vu d'en parler là pendant les européennes. C'est assez étonnant, alors que c'est quand même le cœur de ce que va devenir, hein. Là on pourra même plus parler d'Europe, hein. C'est-à-dire les États-Unis auront plus finalement de droits et d'accords que certains pays sur le continent européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Voilà, ça inclura les risques sanitaires et sociaux, ça inclura les questions du droit du travail, enfin on n'a pas fini d'en découvrir. Allez, courte pause musicale avec Sergio Gerroyo qui sera jeudi à Lyon en récital au Rancy.
La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carancistas, ya se van para la Perote, ya no pueden caminar,
porque
por causa de sus bigotes. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
La cucaracha pour introduire les élections européennes, c'est assez osé, vous conviendrez. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Donc les Suisses nous ont évité l'horreur d'un SMIC à 3 200 €. Ouf, tous les patrons français respirent, 3 200 € pour 42 heures, ça a été refusé à 75%. L'égoïsme des Suisses est sans limite, on le sait depuis longtemps, donc on n'est pas vraiment surprise. Mais enfin, le seul fait qu'ils aient pu en avoir l'idée et que ce soit à ce montant-là, ça donne beaucoup à réfléchir sur le SMIC français à 1140, je crois. Élection. Alors, on vote par région. Le sud-est est vaste, ça va de la Méditerranée jusque par ici. Et les électeurs qui voudront bien se mobiliser devront se rendre aux urnes pour élire pour la région sud-est 13 candidats. Un système assez foutoir, hein, qui s'appelle la proportionnelle à la plus forte majorité. C'est un beau terme, mais ça veut dire en gros que la liste qui arrive en tête rafle, comme dans les d'autres élections qu'on a connues récemment, les deux tiers des sièges, quoi. Mais après, la mécanique, j'ai essayé de m'y retrouver, et on y arrive, mais c'est vraiment compliqué, on va pas perdre du temps. Ça. Il est vrai que le parti qui arrivera en tête des voix rafle un petit peu la mise. Alors, 13 candidats pour le Sud-Est, 12 listes. Ça laisse pas beaucoup d'espoir à tout le monde d'avoir un candidat. Et en plus, il faut avoir 5% des voix pour être retenu dans le calcul du partage pseudo-proportionnel qui va être fait. Quoi. Le Front de Gauche, le PS, le LV Les Verts, l'UMP, le FN, l'UDI et une demi-douzaine de listes qui font de la figuration ou qui, comme d'habitude, profitent des élections pour se mettre un petit peu en avant et faire avancer leurs idées ou leurs thèses. La question, c'est surtout de savoir qui va arriver en tête. Et bon, certains redoutent que ce soit le Front National. Après, le PS semble devoir, dans la foulée des voix qu'il a perdues au municipal, continuer d'en perdre. Les Verts vont-ils se maintenir à quelle hauteur? Le Front de Gauche va-t-il faire comme en Grèce la surprise? Voilà beaucoup de questions pour vous qui choisirez ou pas d'aller voter ce dimanche. Il n'y a qu'un tour, hein, donc... Voilà, Robert, quelques commentaires sur les élections dans le Sud-Est ou dans le National?
Sur le Sud-Est, au National ou même européenne, on a essayé de voir si les sondages au plan européen vont faire que la victoire du Front National, si elle se confirme, va être diluée. Parce que les autres partis facho-nationalistes en Europe feront des scores beaucoup plus faibles, mais ça ne sera pas très glorieux pour l'Hexagone d'avoir ce genre de résultats. Mais c'est peut-être intéressant, ça sera intéressant d'analyser pourquoi aujourd'hui cette droite extrême, pour ne pas dire l'extrême droite, et c'est de l'extrême droite, fascisante par bien des côtés, pourquoi elle est si puissante dans notre pays qui n'est pas le pays où l'austérité est la plus violente. On en a parlé de l'Espagne, on a parlé l'Europe du Sud, Portugal, Grèce, où effectivement on aurait pu craindre là une émergence très forte des extrêmes droites dans ces pays soumis à une austérité encore plus violente que chez nous. Eh bien non, c'est en France que ça se produit. Alors on n'a pas d'explication sinon historique, c'est-à-dire que le côté veut dire espèce d'anti-parlementarisme qui n'est pas forcément de l'anti-républicanisme. Hein. Bon, on a vu comment les deux éléments peuvent se mélanger, mais l'anti-parlementarisme ressurgit régulièrement en France. Et curieusement, même quand c'est un gouvernement socialiste très modéré, que d'ailleurs certains classifient comme étant la gauche de la droite, eh bien, on voit monter cette puissance de cette extrême droite.
Michel ?
Oui, enfin, juste dire aussi, c'est pas tant, comment dirais-je, l'extrême droite, c'est pas les idées de l'extrême droite hein, qui sont, comment dirais-je, qui ont monté, c'est une adhésion de gens qui, pour certains, s'abstenaient ou commencent à voter Front National alors qu'ils n'avaient jamais voté ou jamais voté surtout Front National, dégoûtés. Par les partis de gouvernement, l'UMP, le PS, qui, voilà, 30 ans leur dit qu'il n'y a pas d'autre politique, qu'il n'y a pas d'autre alternative, et qui, justement, quand je dis pas d'autre politique, c'est-à-dire certainement pas une politique de gauche, hein, à force de casser l'alternative à gauche coûte que coûte hein, et tous les jours, faut-il s'étonner que des gens qui, historiquement, voter à gauche s'apprête là à voter pour l'extrême droite. Donc c'est ce phénomène, c'est, je veux dire, la montée du Front National, c'est pas tant le Front National sur sa plateforme que des gens sur l'échiquier politique complètement perdus et livrés au Front National par les partis de gouvernement.
Voilà, pour ce sujet. En rubrique nationale, cette fois, on avait quelques infos, Robert.
Mais je te laisse, vas-tu.
Oui, bon, il n'y a pas énormément de choses, mais dans l'actualité chaude, il y a le vote de la proposition de loi sur la famille qui va se faire en trois volets. Le premier, c'était aujourd'hui qu'il était en débat à l'Assemblée nationale, la question de la médiation. Le deuxième volet, ce sera l'adoption pour plus tard. Et le troisième, c'est les questions autour de la PMA et autres. Et là, on peut penser que ce sera pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Autrement dit, on remise ça pour le moment. Compte tenu en plus que le premier volet qui semblait assez anodin, assez ne devait poser aucun problème, la question de la médiation, en particulier pour les couples divorcés, le rôle du beau-parent, tout ça, eh ben ça a réussi à faire litige, à faire apparaître quelques 400-500 amendements. Et du coup, le truc n'a pas été voté aujourd'hui. Ça fait monter au créneau beaucoup de monde. Ça fait monter au créneau, bien sûr, ceux qui n'attendent que ça et qui ratent pas une occasion du style Manif pour tous et ceux autour de ce mouvement. On pourra évoquer l'affaire de Nantes aussi, qui manque pas de sel. Et ça fait monter au créneau les féministes qui voient dans ces décisions des points contre elles et qui s'opposent au rôle du troisième parent trop facilement reconnu. Elles y voient une victoire de plus des pères contre les mères, en particulier avec la question de la résidence double qui remplacerait la résidence unique avec un droit de visite de l'autre au titre de la déstabilisation de l'enfant. C'est des questions qui sont pas très faciles et tous les points de vue mérite d'être envisagé, mais le gouvernement qui pensait faire œuvre de progrès là, est passé dans une unanimité bienveillante, se casse les dents une fois de plus sur les radicalismes exacerbés à l'occasion des votes des précédentes lois et qui cherche dans tout un prétexte à se remobiliser autour de ces questions. Oui, on peut dire un mot de la fameuse journée de la jupe, c'était vendredi je crois, où une vingtaine de lycées de Nantes sur les 220 et quelques il y a. On embraye tous les ans sur une manif qui veut dénoncer justement le pouvoir masculin. Et pour cela, ben, symboliquement, pendant une journée, se vêtent d'une jupe. Et cette année, ben, les manifs pour tous et toute leur bande de supporters se sont pointés devant les lycées pour protester contre cette indécence. Ça manque pas de sel de voir que les gens qui veulent pas voir les garçons en jupe sont les premiers à se mettre à genoux devant des hommes en robe que sont les prêtres et en soutane. Là, il faudra qu'on m'explique, mais et ça leur apparaît pas comme ça, bizarre, hein. Et pourtant, même le pape, il se balade avec une jupe. Alors, il devrait, au contraire, applaudir des deux mains quand il voit des jeunes gens partis en si bon chemin. Allez, l'écotaxe est morte, vive l'éco-redevance pour les poids lourds. On attend la suite, on n'est pas sûr que ceux qui s'opposaient à l'écotaxe voient avec beaucoup de joie l'arrivée de l'éco-redevance, mais c'est la trouvaille de Ségolène et de son équipe pour essayer de désamorcer le conflit et de récupérer la mise, à savoir faire payer les camions une partie des frais qu'ils engendrent à la fois au système et aussi au réseau routier. Ça, c'est une chose dont on ne parle pas. Tout le monde, avec son carburant, paye pour le réseau routier, mais qui use le réseau routier ? C'est pas les petites bagnoles de 400 kilos, c'est les poids lourds de 70 tonnes. Et qui paye ? Eh ben les bagnoles, puisqu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Ça fait partie des anomalies de notre fonctionnement quotidien que tout le monde a fini par admettre et ne veut plus voir. On pourrait discuter comme ça du prix de l'électricité aux particuliers et aux fabricants de bouteilles en verre, et ainsi de suite. Robert, as-tu quelque chose? Les impôts, peut-être, qui ont augmenté 12 milliards. Et on nous fait le coup d'un cadeau de diminution de 1 milliard 8 jours avant les élections. Cherchez l'erreur. C'est absolument extraordinaire. Sans doute, il faut oublier qu'ils ont augmenté 12 milliards et se contenter du milliard de pseudo-réduction qui survient après. Il faut quand même reconnaître que cette pseudo-réduction se tourne vers les plus petits revenus, ce qui est quand même une de ses qualités au milieu de tant de défauts.
Oui, ce qui d'ailleurs ne résout pas la question de l'inégalité devant l'impôt, notamment à travers la TVA, et la demande est forte que l'on s'occupe sérieusement de baisser la TVA, mais en fait, ce gouvernement-là, comme les précédents, en fait le contraire. Il a augmenté certaines TVA sur certains produits, tout en disant pour les produits de première nécessité, on n'y touche pas. Mais en fait, le gros problème de réduire l'inégalité, c'est comme le souligne le Front de Gauche, et puis en partie les syndicats, ils disent c'est bien si des gens aux revenus modestes ne paieront plus l'impôt sur leurs revenus, mais ça ne résout pas le problème de la réforme fiscale tant attendue, tant annoncée et toujours reportée. Il y avait un autre sujet sur lequel on va bientôt débattre, et qui va faire sans doute pas mal de polémiques, c'est la réforme territoriale. On aura l'occasion d'y revenir, mais en gros, simplement pour dire que on est en train effectivement d'éloigner de plus en plus le citoyen de ces lieux de pouvoir qui étaient par exemple les communes, puisque les communes sont invitées à se regrouper dans des communautés de communes ou dans des communautés d'agglomération. Et puis, on va aller plus loin, puisque les départements, eux aussi, vont en partie disparaître pour se retrouver dans des régions. Les régions qui, elles-mêmes, seront de plus en plus vastes, un peu sur le style de ce qui est en train de se passer dans le cadre de l'élection européenne. Et tout ça, on a bien compris pourquoi. Eh bien, c'est-à-dire que... On utilise un mot effectivement qui appartient normalement au monde social historiquement de gauche, c'est-à-dire la mutualisation. Mais là, qu'est-ce qu'on va ? On va mutualiser finalement les communes dans des communautés, les départements dans des grandes régions, simplement pour qu'elles deviennent simplement un interlocuteur unique. Face à qui ? Non pas face, comme ça se passait, face aux petites PME qui postulent pour obtenir dans le cadre des appels d'offres, etc. Non, face à des grandes entreprises nationales et souvent multinationales. Donc c'est pour répondre à une demande, on peut dire, du grand capital, des sociétés multinationales. Et c'est le même débat, différent, mais en même temps, même idéologie que celui qui est amorcé dans le cadre de la discussion sur le grand marché transatlantique.
Voilà, faut-il dire un mot de Kerviel, Kerviel qui, après avoir vu tout le monde, le pape Di Falco, la mère Ferré, s'est retrouvé hier à Menton et ce soir en prison à Nice, vraisemblablement. Il a espéré une grâce de pépère qu'il a envoyé balader. Alors, soutenu par certains qui voient là, alors il s'est un peu recyclé, hein, Kerviel. Il est parti faire la marche contre la tyrannie des marchés. Pour un mec qui spéculait à mort et qui n'a fait que ça, c'est assez gros. Et puis d'autres, comme la CGT, qui pensent que ce valet du capital qui essaie de se refaire une santé morale avec ses propos n'est qu'un imposteur. Donc ça divise un petit peu la France, ça fera pas l'affaire Dreyfus, mais bon, il est parti pour le moment pour faire sa condamnation prison.
Alors, la position, par exemple, du Front de Gauche, Mélenchon s'est exprimé là-dessus, il l'avait déjà fait. Et puis il y a un comité de soutien qui ne soutiennent pas moralement, mais qui explique Kerviel, c'est un pur produit du système financier spéculatif mis en place par les banques. Ce sont les banques qui créent ce genre de personnages à qui demandent de faire des super profits. Alors évidemment, par rapport au risque qu'ils prennent, ben, on leur dit vous aurez des grosses commissions si vous gagnez. Par contre, on dit rien si vous perdez. Et alors, toujours essayer de gagner plus, ça finit finalement comme ça a fini pour Kerviel, c'est-à-dire par un désastre. Mais le désastre d'ailleurs n'est pas clair, puisque c'est la demande de Kerviel et de beaucoup de gens, y compris des gens du monde de la justice, qui pensent que tout n'a pas été dit sur les pertes réelles de la Société Générale dans le cadre de cette affaire.
Oui, il sert de lampiste, hein, parce qu'il n'est pas tout seul. Il semble qu'on y a mis sur le dos des pertes qu'il n'avait pas fait lui-même, mais on a fait un lot de l'ensemble. Et puis en plus, le vrai fond du problème, c'est le rôle de la Société Générale, son installation dans les paradis fiscaux des îles anglo-normandes tout près d'ici, et la crise financière mondiale dont ces banques sont à l'origine, avec leurs spéculations éhontées qu'ils faisaient activer au jour le jour par des Kerviel, quoi. Donc c'est vrai qu'il sert un peu de fusible et puis de bouc émissaire, même s'il n'est pas tout blanc. Il a raison de se défendre de cette manière-là, parce que le procès qui a été fait n'a absolument pas été juste en matière de responsabilité. Voilà, quelques infos culturelles pour terminer avec... À tout bout de champ, demain, Hugo Mina qui sera en récital avec Ujeroyo, je l'ai dit, au Rancy jeudi. Vendredi, ce sera Valérie Barrier, je crois que c'est la fille de l'autre, qui sera au Rancy. À la mutualité, à l'initiative d'À tout bout de champ, c'est Desjardins qui sera sur scène. Mais prévoyez 27 euros quand même, c'est pas donné. Et le samedi 24, ce sont les jours ferrés au Rancy avec, j'allais dire les mêmes, Ujeroyo, Natacha qui était la semaine dernière sur scène, Valérie Barrier. Et puis je vous dirai aussi un mot d'une série de concerts en extérieur dans le 5e arrondissement. Ça s'appelle Jazz à Cour et à Jardin. Le mieux, c'est d'aller voir sur Internet, parce qu'il y a une trentaine de récitals, de contes, de musique, de danse, tout dans des lieux publics, donc gratuits, ouverts, 18h, 19h, 21h, enfin, des vraies festivités de printemps. Je vous cite pas tous les noms que j'ai sous les yeux, tout ça est à l'initiative de François Dumont-Daillot, l'illustre musicien qui nous a concocté notre indicatif, dont on lui sera jamais assez reconnaissant. Mais il joue aussi bien d'autres choses avec ses compères musiciens et tous les invités qu'il associe à cet événement qui va durer donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en différents lieux, tous pas très éloignés les uns des autres, dans des parcs, il y en a beaucoup là-haut sur la colline dans le 5e, et on peut aller déambuler de l'un à l'autre. Voilà, il est 20h.
Une phrase pour simplement dire ce que j'ai relevé dans l'humanité, à savoir la disparition de personnes qui ont marqué notre époque aussi. Hein. C'est celle de Jean-Louis Hirsch, qui est auteur du Déserteur, réfractaire à la guerre d'Algérie, s'est battu pour l'indépendance aux côtés des porteurs de valises, etc. Et qui est décédé il y a quelques jours et qui sera inhumé à Alger. Et puis deuxième décès, celui de Jean Houry. Alors Jean Houry aussi, eh bien, c'est ce psychiatre et psychanalyste et qui avait fondé avec Guattari notamment l'hôpital Laborde.
Laborde, l'antipsychiatrie, tout voilà. Un mouvement des années 70-80.
La clinique de la Borde. Oui.
Voilà. Merci à nos auditeurs. Rediffusion demain matin à 8h. Réécoutable sur Internet. Et rendez-vous lundi prochain. Ne quittez pas l'antenne. Bonsoir.